Bonjour Hervé.
Bonjour.
Gattegnaud. Dans les journaux ce matin, une autre face de la guerre au Moyen-Orient. Israël et l'Iran s'affrontent non pas avec des soldats ni des missiles, mais avec des pirates informatiques.
Les Échos racontent cette cyberguerre qui oppose les deux pays et qui s'est traduite ces derniers jours par des raids informatiques en série. Un groupe de hackers israéliens, les Moineaux Prédateurs, a paralysé lundi 70% des stations-service en Iran en bloquant les terminaux de paiement. En riposte, un groupe de hackers iranien, Agrius, s'est infiltré dans le système informatique d'un hôpital israélien et a divulgué des milliers de dossiers médicaux personnels. Le correspondant des Échos à Tel Aviv parle d'une bataille de l'ombre, mais précise que ces deux groupes sont notoirement et ouvertement liés au Mossad pour le premier, au régime de Téhéran pour le second. Depuis le début de la guerre à Gaza, écrit-il, pas moins de 40 cyberattaques auraient visé des entreprises israéliennes.
En France, la direction des services secrets s'apprête à changer de tête. C'est une information du site Intelligence Online.
C'est ce qu'il convient d'appeler un scoop. Selon le site spécialisé dans les questions de renseignement, Emmanuel Macron nommera ce matin au Conseil des ministres un nouveau directeur de la DGSE. La DGSE, vous savez, c'est le service d'espionnage français qui dépend du ministère des Armées. Après une intense compétition entre plusieurs préfets et des généraux, c'est le chef du contre-espionnage, Nicolas Lerner, qui aurait été choisi par l'Élysée. L'actuel directeur de la DGSE, l'ambassadeur Bernard Aimier, en poste depuis 6 ans et demi, espérait tenir jusqu'aux Jeux Olympiques. Mais le contexte sécuritaire mondial dégradé, dans lequel le service n'a su prévoir ni la guerre en Ukraine ni les coups d'État au Sahel, a précipité son remplacement. Intelligence Online précise qu'Emmanuel Macron a reçu en personne chacun des prétendants et que celui qu'il a choisi était son condisciple à l'ENA il y a 20 ans.
Évidemment, la presse de ce matin consacre une large place à la loi sur l'immigration adoptée hier soir dans la douleur.
Les journaux n'ont pas tous attendu le vote pour boucler leurs éditions, mais ils ont tous anticipé les effets politiques de ce vote. Mot-clé du jour, la crise. L'Opinion annonce une crise ouverte en Macronie, la majorité présidentielle en crise, titre Ouest France. Crise inédite pour le Figaro qui se réjouit que la droite dicte sa loi au gouvernement. La Provence parle, elle, de séisme. L'Est républicain de fracture, la presse de la Manche de chaos, Libération de Bérézina, l'Express de capitulation, j'arrête là cette surenchère, plus modéré, Le Monde résume, l'exécutif traverse la tempête mais n'éteint pas le malaise.
Le Monde et Le Figaro rappellent l'accumulation de lois consacrées au problème de l'immigration dans notre pays, c'est faramineux.
Oui, et chacun le fait avec sa grille de lecture. De Giscard à Macron, qu'ont changé les 30 lois sur l'immigration, se demande Le Figaro. Sa réponse, l'examen de 40 ans de discussion dément le mythe d'un durcissement continu de la politique migratoire, malgré l'inventivité du législateur et l'introduction de moyens répressifs. Sur le site du Monde, une infographie très détaillée permet de vérifier ce qui a été durci et ce qui a été assoupli au fil du temps. Chiffre stupéfiant, 117 lois ont été consacrées à l'immigration depuis 1945.
C'est plus d'une par an.
Oui, c'est plus d'une par an. Non, pas tout à fait. Ces incessantes révisions, écrit Le Monde, ont progressivement brouillé la répartition des rôles entre une droite ferme et une gauche humaniste. Car si Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy restent les champions des mesures anti-immigration, les socialistes ont entériné, voire devancé, des durcissements proposés par la droite. Tendance confirmée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas la conclusion du Monde.
On termine avec ce débat posé par Ouest France. La gratuité des transports publics dans les villes est-elle amenée à se généraliser?
La gratuité finit-elle par payer, s'amuse l'austère quotidien breton. La question est elle-même très sérieuse. Avec Montpellier, où les bus et trams seront gratuits à partir de demain, cela fait 44 réseaux de transport urbain en libre accès en France. C'est le cas à Compiègne depuis 1964. Et aussi à Dunkerque, à Douai, à Calais, à Dinard ou à Aubagne, peut-être bientôt dans la métropole Aix-Marseille et à Nantes, où les transports sont déjà gratuits le week-end. Ouest France rappelle que les transports urbains sont financés par un impôt sur les entreprises, le versement mobilité, mais aussi par les usagers qui achètent des tickets et par les collectivités qui subventionnent. Le journal constate que la gratuité est une mesure sociale, puisqu'elle agit en faveur du pouvoir d'achat, mais que ses effets écologiques écologiques ne sont pas avérées, car elle attire en réalité surtout les cyclistes et les piétons, et non les automobilistes qui préfèrent garder leur voiture. Il est assez logique que la marche vers le progrès soit plus rapide quand on prend le bus, mais si on comprend bien, ça ne rend pas l'air plus respirable, surtout pas cette semaine.
Eh bien, il faut partir se promener dans la forêt, voilà mon conseil. Ça mange pas de pain, c'est pas très original, mais bon, c'est comme ça.
Mais on, mais on lit les journaux quand même.
Bah évidemment, vous pouvez emmener tous vos journaux dans la forêt, vous asseoir sous un chêne et les feuilleter en toute sérénité. Merci, à demain, Hervé Gattegno. Dans un instant, nos esprits libres, Routel Krief et Marc Lambron.